Sommes-nous disponibles? Mes amis, sommes-nous disponibles? Est-ce que nous nous occupons de Christ dans notre vie, de notre relation? Parce que nous laissons tout le reste, hein, les soucis d'argent, tous les soucis de travail, etc., les distractions qu'il faut avoir, etc., est-ce qu'on met ça en périphérie pour se concentrer sur lui? Ou est-ce que tout est périphérique et au milieu? Et lui, il est comme Laodicée, il est derrière la porte. Jésus est hors de l'église, il toque. Si vous entendez ma voix, je vous ouvrirai la porte, je rentrerai chez vous, je mangerai avec vous, vous mangerez avec moi. Apocalypse 3:20. Finalement, ce n'est pas de la blague, hein, c'est la réalité. Être disponible en esprit en vérité, c'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Le temps est venu d'avoir des adorateurs en esprit en vérité. Et je pense que la grande qualité, c'est la disponibilité à Jésus-Christ. Regardons Marc chapitre 3, verset, Marc 3, verset 13. Jésus monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Donc, est-ce que vous avez déjà été appelé? En principe, c'est le point de départ. Quand j'allais voir cette femme-là, que je vous ai dit, avec le fibrome de 32 kilos, dites-vous bien qu'elle a été appelée, puisqu'elle m'a demandé que je vienne, j'y étais régulièrement. Elle était appelée, mais elle a répondu 25 ans plus tard. Vous comprenez? Mais pour Dieu, 25 ans, c'est comme un jour. Il savait qu'elle allait répondre. Et moi, je savais que je devais persévérer. En priant, je savais. C'est pas en 5 minutes que quelqu'un répond à l'appel. Ça peut arriver. J'ai vu quelqu'un ici, notre très cher, sur un quart d'heure, donner sa vie à Jésus-Christ. Ici. Vous la voyez là? Un quart d'heure. Ça est resté, hein, indélébile, sans retour. Alors, Marc chapitre 3, verset 13, Jésus monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui. Donc la réponse est variable. Variable. Considérez votre vie, considérez votre façon de faire, d'être. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc établir, il les met debout. L'image, c'est que quelqu'un qui est sans Dieu est couché par terre, hein, et sans vie, est mort. Il l'établit, mais debout. René de Lyon, en 213, disait « La gloire de Dieu, c'est un homme debout devant sa face. » Alors, les avoir avec lui, c'est la communion. Communion, c'est la communion. C'est la relation avec Jésus. Voilà. Donc c'est finalement la disponibilité, et ce qu'il y a, c'est que Jésus est disponible pour eux, puisqu'il est le bon berger, il les aime, il donne sa vie pour eux, il est toujours là, il est vivant, mais eux aussi sont disponibles pour lui. Ça s'appelle la réciprocité. La disponibilité dans la vie chrétienne, c'est la réciprocité entre le Christ et nous. Et nous ne sommes plus dans un intermarché. Nous ne sommes pas dans une clientèle, on ne va pas d'une église à l'autre pour chercher, etc., pour savoir où on sera le mieux. Le fond du fond, c'est dans le secret de sa chambre qu'on règle ça, d'abord. On est dans la réciprocité avec le Seigneur. C'est la même chose que dans un couple. On se découvre, on cherche le complément chez l'autre, on imagine tout. Hein, c'est la période narcissique, c'est la première étape. Puis finalement, après 2 ans et demi... Un an et demi, parfois 3 ans, finalement on n'a pas trouvé le complément qu'on cherchait. La période narcissique est suivie d'une période très difficile. Et cette période, si vous voulez, ça arrive dans la vie chrétienne. On a perdu les illusions. Et on est en train de souffrir. Et finalement, quand il y a des problèmes, c'est l'autre la faute. C'est jamais moi. Ou l'autre. 5%, 95% pour l'autre. C'est la période de l'illusion, c'est la période du conflit. Il y a deux formes de conflit. Le conflit amoureux, on est quand même attaché à l'un à l'autre, on reste malgré que l'autre. Ça fait ça, ou c'est le conflit, le Dieu et la mort. Le Dieu et la mort, on va piquer l'autre, on va le virer, ou on va l'humilier, le dominer, l'abaisser et en faire un objet. Dans l'amour humain, donc, la peine narcissique, la recherche de soi inconsciente, pour compléter ce qui nous manque, et puis la deuxième désillusion, on n'a pas trouvé ce qui fait l'autre, ce qui nous manquait pour compléter, on doit faire avec. Ça, ça dure 5-6 ans. Et puis après, il y a la période où on accepte l'autre comme il est, ça s'appelle la réciprocité. La réciprocité, c'est une interaction entre les deux pour s'aimer et pour se construire ensemble, pour faire du bien à l'autre. Et on sort de son égoïsme, de son amertume, c'est la même chose avec Dieu. On passe par les trois étapes. La période narcissique, j'ai donné ma vie à Jésus, etc. Et puis après, illusion des illusions, ça c'est une période très difficile. Et après, est-ce que je vais dans une relation de réciprocité avec le Seigneur ? Profonde. Où le Seigneur va grandir en moi, il va prendre beaucoup de place, il va devenir le premier, et moi je vais devenir plus précieux à ses yeux, je vais devenir plus valeureux. Il y a des choses qui vont changer en moi, il y a des choses profondément qui vont guérir. Comment ? Il ne faut pas se poser la question, il faut le laisser faire. Et dans la réciprocité, il y a une étape qui vient après, et c'est comme ça dans les couples chrétiens, la quatrième étape, c'est la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, c'est que, vous savez, je suis là à côté de ma femme, elle dort, elle n'a pas toujours eu besoin de dormir le double de moi. Moi, je suis comme un cheval, je suis vite en route. Hein. Et bien, alors, pratiquement, ce qui se passe, je la connais spirituellement. Elle est là, je la connais spirituellement, mais vraiment. Le reste n'est plus si important que ça, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un âge pour tout. Mais ce qu'il y a, n'empêche que quand elle se lève, je fais des bisous, je fais des doudous, etc. Il ne faut quand même pas devenir un vieux glaçon, hein, un vieux machin frigorifié, hein, un congélateur. C'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, la connivence et la connaissance spirituelle avancent et se développent. Et ça, c'est vraiment la piété. C'est ce qu'on appelle la piété. Et Paul le dit à Timothée, la piété et le contentement sont une source de grand gain. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Ça s'arrangera. Hein? C'est pour ça que Paul dit aussi, dans Romains, chapitre 14, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, ben oui, le boulot et le cours, etc., la maison, enfin tout ça, tremblement, J'avais ma famille qui tombe des bombes ici, moi je m'en fous, hein, ça ne change rien pour ma vie. Bon, il y a des gens qui sont malheureux, mais ça ne change rien. Allez, on prend la brouette, on ramasse, on se fait un petit coin dans la baraque, même dans une cave, hein, il y en a plein qui sont dans des caves pendant des années. Et puis, on va au port, on fait une cabane en planche au fond du pré, mais pas d'important. Ce qui compte, c'est d'être avec le Seigneur, et surtout que tout le monde se rapproche de Dieu, quelles que soient les tuiles, les torpilles qu'on ramasse. La connaissance spirituelle, la connivence spirituelle, ça devient un lien inébranlable. Le diable est dégoûté, je vous le dis, il est dégoûté. Par expérience, je vis tout ça et je le vois pour les autres quand je visite, quand j'écoute, c'est des choses qu'ils doivent apprendre. Il nous faut du temps pour apprendre, hein. Vous savez, quand un gosse est à 3 ans en maternelle et que plus tard, bon, il va être un super technicien ou je sais pas, un pilote, regardez le temps qu'il faut pour le former. Et donc, c'est dans la vie chrétienne de la même façon. Mais l'enfant qui aime apprendre, qui aime se former pour quelque chose, est disponible, il va grandir. s'il freine les quatre pieds, etc., bon, il est possible qu'il y ait des choses très dures qui se sont passées dans sa vie. On a, par exemple, dans notre école, parfois des enfants avec de tout gros problèmes qui viennent, puis tout d'un coup, ça part. Pourquoi ? Nos filles, quand c'est comme ça, jeûnent et prient. Et parfois, ils disent, « Papa, tu ne veux pas prier et jeûner aussi ?» Pourquoi ? Quand vous voyez un obstacle majeur dans votre vie qui n'est pas résolu, il faut absolument se rapprocher de Christ par le jeûne et la prière. La disponibilité va jusque-là. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous restez plusieurs jours en jeûnant, au début, il y a des attaques, ça c'est clair. Les premières fois, parfois ça dure 7-8 fois comme ça. Mais après, ce qui se passe, on est beaucoup mieux quand on a jeûné, on est beaucoup plus en forme que si on avait toujours mangé. Au niveau psychique, au niveau physique et tout. La ressource est incroyable. La ressource dans l'individu est incroyable. Et elle est très forte. Mais au niveau spirituel, vous avez eu du temps avec le Seigneur. Pas Dieu les casseroles, lui la vaisselle, lui tout le reste. C'est pour ça que souvent j'ai demandé à l'église s'il y a 10 rencontres fraternelles. Partout dans les églises, j'ai vu ça, repas fraternel. Et il y en a plein à manger. Pour finir, il faut boire du café et puis on fait un petit truc spirituel dans l'après-midi, on n'en fait pas. Deux repas fraternels. 5 à 8 rencontres fraternelles où on jeûne. On ne mange pas. Il n'y a ni femme ni homme qui font à manger, il n'y a pas de table maître, il n'y a pas de vaisselle, rien du tout. Tu te rappelles que souvent tu as fait la vaisselle, tu étais toujours prête à rendre service. Ben, on est beaucoup mieux quand on se rend compte qu'il n'y a pas tout ça. Même si tu as bon cœur, tu es finalement plus à l'écoute avec les autres. On est beaucoup mieux ensemble. Donc la disponibilité, c'est un terrain sur lequel il faut se battre. C'est pas si spontané que ça. C'est pas si spontané ça. Parce que nous avons un nombril gros comme un klaxon de camion. Ok ? La disponibilité, ça s'apprend, ça s'engendre, et ça se conquiert. Et une fois qu'on l'a développé, c'est une grande qualité morale déjà, morale, pour rencontrer les autres, et spirituelle. Pour une vie avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il les a tirés sur la montagne, il les a isolés, et puis il leur a demandé la communion. Est-ce qu'ils vont rentrer, Marc chapitre 3, verset 13 et 14, est-ce qu'ils vont rentrer dans la communion comme ça ? Eux vont croire que oui. Mais Jésus sait très bien qu'il a des rallonges à mettre avec eux. C'est la même chose pour nous. Il va même, Jésus va même jusqu'à dire, écoute, Pierre, Satan est venu me trouver pour vous cribler comme le froment, vous écraser entre deux meules, pour faire du sang de la farine. Jésus, dans la prière, sait très bien que les personnes qui viennent à lui vont être l'objet d'attaque, l'objet de pression et d'oppression. Et il prie pour nous. Lisez Jean chapitre 17, verset 17. Je prie pour ceux qui ont cru en moi, et je prie aussi pour ceux qui croiront dans leur parole. C'est toute la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17. Jésus sait très bien que le terrain de la disponibilité doit augmenter en nous. Et il dit dans la parabole du sarment, du cep avec les sarments, vous ne pouvez rien faire sans moi. Coupez un sarment, il y a du soleil en été, de 5 minutes après, vous voyez les feuilles déjà pof. Le lendemain, il n'y en a plus avec le soleil. Je discutais avec un vigneron dans le Var, qui partait à 3-4 heures du matin, avec son petit tracteur, qui faisait tous les vignobles. Il ne pleut pas, il passe entre les lignes. Pourquoi ? Parce que quand il sarte avec son... ça fait une couche comme de la laine de verre, si vous voulez. De la terre aérée, elle va chauffer, mais en dessous, le sol ne va pas donner son humidité. Le sol ne va pas perdre l'humidité. Et le cep, lui, il a des racines qui descendent jusqu'à 50-60 mètres. Donc, le bon vigneron va faire la même chose avec nous. Il va sarcler alentour de nous, régulièrement, biner, entre les légumes, le jardinier. Un vieux jardinier m'avait dit que un binage valait 3 arrosages. Oui, oui, un homme d'expérience. Eh bien, chez nous, il y a notre Zidlana qui vient d'Ukraine et qui a fait fructifier nos 4 jardins dans le cachet parce qu'elle a toujours été piochée, binée, binée, binée. Et on avait des betteraves rouges comme ça. On n'avait jamais eu, on avait des petites riquettes là. Alors, finalement, oui, des tomates, mais des centaines de tomates. Elle l'a toujours binée, binée. Donc, binée dans un jardin, une fois, vaut mieux que 3 arrosages. Pour vous, dans votre vie, le plus facile, pensez, vous voulez arroser avec des versets bibliques. Vas-y, vas-y, je vais à l'église, ils ont bien parlé. Oh, je vais lire ça, oh, je vais écouter sur internet des machins, c'est pas mal, en étant dans l'auto. Bon, ça c'est de l'arrosage. Le binage, tout ce qui m'entoure, ça doit être nettoyé. Et ça, c'est mon boulot. Tout ce qui est dans mon âme doit être nettoyé. Ça, c'est mon boulot. Il faut bien sûr de l'arrosage, mais bon, ne jouons pas avec la vie superficielle. Ça ne marche pas. Ça fait 60 ans, 80 ans, on voit en Occident, c'est la dégringole de toutes les églises. Bon, on peut aussi se doper par la musique, par les ambiances, et puis après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand Jésus va revenir, ça ne va pas comme ça avec lui. Jésus ne se fait pas prendre à ce jeu-là. Donc, nous devons chercher la présence du Seigneur. 2 Chroniques 7, verset 14. Verset 14 à 16. Vous savez, la vie chrétienne est très difficile. C'est un long parcours. Mais Jésus a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. À un moment donné, vous voyez la consolation du Saint-Esprit s'établir en vous. Et personne ne pourra vous l'apprendre. Personne ne peut vous l'apprendre. Je vous garantis, c'est le fruit de tout ce binage, de toute cette disponibilité. 2 Corinthiens 7. 2 Chroniques 7. 14. Verset 14. Est-ce que vous êtes des bons combattants? Est-ce que je suis un bon combattant? Et j'ai été un très mauvais combattant jusqu'à l'âge de... Oui, déjà... jusqu'à 40 ans, 32 ans. Mais alors encore, en ayant entendu dans l'enseignement biblique, à l'Institut, plein de choses, en m'étant engagé pour le Seigneur, je vais dire que de 45 ans à 60 ans, il y avait beaucoup de sarclage et de binage, beaucoup de 65 ans. Je vois que c'est les dernières années, et je me dis, Dieu a un programme. Il ne donne pas à toutes les pannes comme ça, tout d'un coup. Pourquoi les gaspiller? Il y a un programme. C'est comme ça. Il ne va pas donner toutes les sucettes comme ça de 2 Corinthiens 7, verset 14.
Non, chronique.
2 Chroniques, oui. Oh là.
C'est mon peuple soumis.
Maintenant, je.
C'est pris en cherchant la face, les yeux serrés des yeux. Et son pays.
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ça, c'est toutes les églises chrétiennes, c'est les juifs, et puis il y a même des croyants autre part. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, est s'humilie, l'humus, quand dans la forêt les feuilles tombent, ça pourrit, ça donne de l'humus, que les arbres reprennent pour se nourrir. Donc il y a une mort à nous-mêmes dans beaucoup de choses. S'humilie, prie et cherche ma face, vous voyez, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Mes amis, le jour que vous avez passé tous les caps, les étapes, et que vous pouvez dire, mes oreilles, les oreilles de Dieu sont attentives à chaque fois mes prières. Les oreilles, ses yeux sont attentifs. Vous imaginez quel bonheur. Ah, on n'est pas encore arrivé, hein, qu'on fasse s'enorgueillir. Mais quand même, quel cadeau. Mes amis, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Maintenant, je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bon, c'était le temps. Finalement, ça, ils n'ont pas obéi. Et on voit dans Ézéchiel 2, 8 et 10, dans trois chapitres, que la gloire de Dieu, l'Esprit Saint, s'en va. Quand l'Esprit Saint revient-il dans Israël? Avec Jésus? C'est le nouveau temple? C'est le nouveau temple. Adieu, état de pierre. Et vous, moi, mes amis, où est le temple? Ça? Ou un beau temple avec un beau parking, etc.? Non! Là! C'est là le temple que Dieu veut. Clairement, Paul l'a expliqué dans Éphésiens et Corinthiens. L'état de pierre et tout le reste, c'est de la bagatelle pour Dieu. Votre temple, son temple. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Donc, vous voyez, c'est profond. Hein? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Il faut savoir que le mot rocher, Petra, c'est le Christ. C'est expliqué dans 1 Corinthiens 10, verset 14. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que vous avez le nom de rocher, c'est le nom de Christ. Paul l'explique, 1 Corinthiens 10, 14. Alors, le tabernacle, c'est dans Apocalypse, au chapitre 21 et 22. Le tabernacle parmi les hommes, c'est le Christ. Donc, où est-ce que je peux contempler la magnificence de l'Éternel? En contemplant Jésus-Christ. En contemplant sa personne. Et il faut du temps. Il faut du temps, mes amis. Il faut apprendre à contempler la personne de Christ. Alors, cette parole qui est ici s'accomplit pour vous, pour moi. Prenons le psaume 105, verset 4. Je m'approche de quelqu'un régulièrement qui ne sait pas lire. Un homme de 28 ans ne sait pas lire. Il est analphabète. La première étape, c'est de l'aimer comme si c'était mon fils. De venir à son secours. Il a essayé plusieurs fois de se suicider. Il a échoué parce que je demandais à Dieu qu'il ne réussisse pas. Mais à un moment donné, l'amour va lui sauter aux yeux. L'amour, il va se rendre compte, tiens, il y a l'amour comme ça chez les autres de l'Assemblée. Chez Marie-Hélène, et il va se dire, mais pourquoi il y a cet amour-là pour moi? Pourquoi il y a cet amour-là? Alors que moi, j'ai la conviction que personne ne m'a jamais aimé. Et il va jaillir à un moment donné, c'est Dieu qui fait ça. Comme pour l'apôtre Paul, Saul de Tarse, c'était un abruti et une brute, sanguinaire. Et il dit dans Galates, au chapitre 2 ou 3, il dit, il a plu à Dieu de révéler en moi son fils Jésus. Si je fréquente cet homme, à toutes les heures, aujourd'hui c'est à 5h30 du matin, j'ai conduit au travail, hier aussi. Bon, pratiquement ça n'a pas, c'est pas grave. C'est ce sacrifice, c'est pour Christ. Je sais que Jésus va se révéler à lui. Analphabète. Jésus va se révéler à lui, il va lui parler. Et après, quand il sera vraiment touché par le Seigneur, les gens dans l'église, ici, vont lui apprendre à lire. Parce qu'il va ne plus écouter ses peurs, son discrédit, son manque de confiance. Il aura trouvé l'onction du Saint-Esprit sur lui. Il va commencer à avancer. Mes chers amis, il faut savoir, nous allons à psaume 105 et au verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Pour vous et le plus possible aussi pour les autres. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que cette femme, cet enfant, cette personne âgée, cet homme, vienne un jour à toi, que tu te révèles. Je cherche ta face, Seigneur. Viens à mon secours. Sois mon appui. Je ne sais pas comment il... Mais si, il doit y venir, Seigneur, oui, je vais recourir à toi tous les jours. Donc, celui qui veut témoigner, il doit être au pied du Seigneur. L'ouvrier n'est pas plus grand que son patron. Hein. Et c'est dans la modestie, dans l'humilité, que Dieu donnera un jour ce bon salaire à son ouvrier, à celui croyant qu'il l'aime, il verra l'autre complètement transformé par la grâce. Il dira, merci Seigneur. Job 42, verset 5. C'est avant les psaumes. Hein. Job a été blessé, humilié par trois bonhommes très légalistes, très religieux, qui connaissaient plein de choses sur Dieu. Et ils sont venus lui gratter les puces pour savoir quel était son péché. Trois grands amis, très religieux, pour gratter tous ses péchés. C'est pour ça que tu as des misères, c'est pour ça que tu as des ennuis. Regarde tes péchés. C'est pas ça. C'était pas à cause de ce péché qu'il avait des ennuis. Dieu avait permis qu'il ait des épreuves, simplement, pour que sa foi grandisse. Oui, et c'était pas dû au péché. Dieu parfois permet les épreuves. Et clairement, si Dieu a un programme de sarclage, de binage, après, regardez, Job 42. Job répondit à l'Éternel, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est Dieu. Ensuite, Job répond, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Vous voyez, c'est un dialogue dans le chapitre 42. Alors, verset 4, c'est Dieu qui lui dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Si le Seigneur permet qu'un homme et une femme disent, tu m'instruiras, allez, donne-moi un petit peu, expose-moi toute cette situation, expose-moi tout. Ne cache rien, expose tout. Moi, je m'en occuperai. Mieux que toi, tu ne peux. Et ce qui se passe? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ça, c'est Job qui dit ça à Dieu. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Combien de gens dans les églises sont à ce stade-là? Ils parlent de tas de choses qui les dépassent et ils ne connaissent pas réellement Dieu. Il y a une église qui s'est divisée, pas loin d'ici, 18 contre 18, boum boum. Une chrétienne m'a dit, ils parlent tous de Dieu, ils ont tous une bonne doctrine, ils font tous de belles prières, et quasiment tous, ils marchent sur les pieds à Jésus-Christ sans s'en rendre compte. Oui. Oui. Je pense qu'elle avait raison. Les événements vont les humilier, les choses que Dieu va permettre pour ramener, les ramener à une saine raison. Psaume 110, verset 11, celui qui a la crainte de l'Éternel a une raison saine. Une saine raison. Ça ne vient pas, parce qu'on a des tas de connaissances et qu'on fait des belles prières. J'ai parlé sain et comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc, je n'étais pas disponible. J'étais avec mon ego, évangélique ou catholique ou protestant, peu importe. Dieu s'en fiche, hein. Ou musulman. Verset 4. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Voilà l'homme, Job. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça y est. Ça y est. Il voit Dieu présent dans sa vie. Ça y est. Il est passé à l'étape que je vous ai dit, hein, la connaissance et la connivence spirituelle. Il sait quand Dieu est là, fait ceci, fait cela. Et quand il va au travail, qu'il va quelque part, à la poste, il sait ce que Dieu veut et ne veut pas. Dans toutes les rencontres. Ça, c'est génial. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est l'étape de la connaissance spirituelle et de la connivence spirituelle. La cerise sur le gâteau n'est donnée qu'après avoir passé les autres étapes. Alors, ce brave homme, Job, il dit quand même, j'ai quand même été un dur. Hein. Alors, c'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière, sur la cendre. Et je pense, je vais vous dire, hein, Dieu prend un coup de tape dans le dos et dit, ne le fais pas trop longtemps, puisque de toute façon, je t'ai sauvé. Il ne faut pas retourner dans le masochisme spirituel et dans la culpabilisation, hein, mon petit pote. Romains 8.1. Romains 8.1, il n'y a point de culpabilité, de condamnation pour celui qui croit en Jésus-Christ. Oui, vous voyez, Job, c'est un homme religieux, il revient sur le vieux sentier qu'il a appris. La repentance, la poussée d'un sang. La repentance, à un moment donné, c'est plus ça que Dieu veut. C'est la relation. Est-ce que tu entres dans la relation avec moi? Mais arrête la repentance dans l'escalier là qui est derrière la porte. C'est les deux premières marches de ta vie spirituelle. Il y en a 15. Donc la disponibilité, c'est de passer au-delà des canevas qu'on a reçus charnellement par Adam et Ève ou par les églises, et c'est d'entrer dans une vraie démarche spirituelle. Une vraie. C'est entrer dans sa volonté, dans sa communion. Quand on rencontre quelqu'un au boulot ou autre part, son visage révèle beaucoup de son caractère. Le visage de quelqu'un révèle, ben, avec l'expérience, beaucoup de son caractère, de sa personnalité, de sa sensibilité, de sa détresse, de sa dureté, de son ouverture. On voit si la personne est accessible, hein, ou si elle est fermée. Tout ça, ça se voit. Et Dieu, alors, il ne voit pas tout. Vraiment que nous soyons stupides pour voir qu'il ne nous voit pas complètement. Alors, allons dans Jean chapitre 15, verset 15. Quelle heure est-il, les amis?
Midi 6.
Quelle heure?
Midi 6.
Ouf, encore un petit peu. Hein? Jean 15, 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Mais comment Dieu commente-t-il un chrétien? À partir du moment où la progression morale et spirituelle s'établit avec le Seigneur, on ne vit plus ça dans les commandements. On aime ce que le Seigneur nous demande. On aime ce que le Seigneur nous propose comme changement. On accepte favorablement, on est disponible à ce que le Seigneur nous demande. Ça n'apparaît plus comme un commandement. On comprend que c'est pour notre bien. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, donc doulos, esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ça, c'est qu'il y a énormément de chrétiens qui en sont là. Et il faut retourner à de la maturité spirituelle dans toutes les églises, chez tous les chrétiens. Alors, dans le temps, les femmes faisaient ça, elles ouvraient toutes les fenêtres, elles aéraient les chambres, elles prenaient les draps de lit, les édredons, elles secouaient tout par la fenêtre. C'est une bonne méthode, hein. Et puis il laissait ça toute la journée, le soleil, le vent, puis elle refaisait le lit pour le soir. On avait un lit bien propre, bien frais. Et il ne faisait pas trop de lessive, parce que hein, l'électricité, le savon, on y reviendra d'ailleurs. Alors ce qui se passe, pourquoi ? Pourquoi aérer ? Pourquoi secouer ? Ben, c'est la même chose pour nous dans notre vie spirituelle. Je ne vous appelle que esclave, serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Je vous ai appris à secouer vos draglis, vos édredons. Allez, aérez-moi tout ça. Ouvrez un peu les fenêtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi, donc je vous ai construit, dites-vous, devant moi, afin que vous alliez et vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Finalement, le Seigneur, il y a une générosité énorme en Christ. C'est que vous puissiez avoir une relation, et il va vous donner, parce que vous n'allez plus lui demander des bagatelles, des choses stupides, et lui demander que les choses les meilleures, les plus précieuses. Et soyez libre, faites-le, il vous répondra. C'est ça. Donc la période connivence et communion spirituelle est extrêmement nécessaire dans les étapes de notre vie. Et votre fruit demeure, meneo, ce terme, c'est ce terme qui est la traduction d'un autre mot hébreu. Dans le désert, quand le peuple avançait d'Égypte, il y avait le tabernacle, et le tabernacle, Dieu campait avec le peuple, il avançait. Eh bien, meneo, ça veut dire ça. Dieu avance avec nous, dans nos zigzags, hein, dans le désert de la vie. Et si on lit Deutéronome chapitre 1, il pouvait traverser le désert en 11 jours. Hein. Leur cœur était tellement compliqué, c'est comme nous. Ils l'ont traversé en 43 ans. Ça fait 11 jours, 43 ans. Écoutez, qu'est-ce que vous choisissez, les amis ? Allons au but ! Allons au but ! Ne restons pas dans les marasmes, empêtrés, si vous payez. Alors, vous voyez, votre fruit demeure, c'est la sainteté, la connivence, la relation avec moi. Camper dans cette vie qui est difficile, camper, avancer avec moi. Ne me lâchez pas. Je suis au centre de votre existence. Ne me lâchez pas. Dieu se rend tout à fait disponible à nous. Est-ce qu'on s'en rend compte? Au fond, disons à Dieu, papa, ça sera plus simple. On a tellement d'idées théologiques et des tas de trucs. Hein? Regardons un peu, Romains 8, 15. Disons, papa, ça sera plus simple. Soyons simples avec Dieu. Romains 8, 15. Est-ce que quelqu'un veut lire avec une bonne voix?
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Donc notre gloire, c'est que l'Esprit Saint vienne en nous, et si vous voulez, nous mettre un stempel là, un sceau, mais tu es mon enfant, je t'aime. Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas derrière, avance avec moi. Regarde ma grâce, regarde ma personne. Vous savez très bien que dans Hébreux chapitre 4, Apollos dit... Approchons-nous du trône de la grâce. Quand on est chrétien évangélique, souvent, avant la conversion, on nous prêche la grâce. conversion. Puis quand on est dans l'Église catholique, on fait des règlements, des codes, des habitudes, des traditions. C'est finalement la grâce, c'est philoche. Spirituellement, on doit être branché au trône de grâce. La grâce, c'est tout ce que Dieu veut nous donner infiniment dans son amour, dans sa sainteté. Et qu'est-ce que c'est la différence, sa miséricorde? Parce que dans Hébreux, il y a plusieurs passages, le trône de miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est que Dieu ne nous punit pas comme on le mérite, malgré tout ce qu'on a fait. Voilà. Il ne nous punit pas, alors il aurait pu nous casser 1000 fois, en morceaux, on ne vivrait plus. Un coup de pied sur la fourmi que nous sommes et c'est terminé. Mes amis, la miséricorde, c'est Dieu qui évite de se mettre en colère et de nous punir. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est un chemin où il veut nous accompagner. Il demeure en nous, demeure dans ce désert. Et si nous avons beaucoup d'épreuves, à mon avis, c'est en nous faisant un peu comme les Hébreux dans le désert. 43 ans au lieu de 11 jours. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup examiner notre vie. Dieu n'a pas voulu que nous soyons des stupides. Oui, Esaïe le dit au chapitre 2, dans les proverbes aussi, Salomon, au peuple juif. Stupide, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Mais, mes amis, avec Jésus-Christ, on a quand même une chance de ne pas être stupide. On n'a pas que des règlements, des peurs, des punitions, des repentances à faire. On a le trône de grâce et le trône de miséricorde. Alors, finalement, regardons dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. J'ai à cœur de prêcher comme ça, de dire ça, 3 fois par semaine sur le Facebook, et ça va sur le site. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens autre part qui écoutent. Il y a des gens en détresse qui sont tout seuls, sans église. Et quand ils écoutent ça, il y a une dame de Toulouse qui est vraiment persécutée par sa famille, d'origine arabe, et elle me dit, en cachette, je l'écoute. Tel enseignement, je l'ai écouté 5-6 fois. Et... autrement, je me suicidais. Écoutez, c'est pas ma parole, je m'en fiche. Il y en a des autres qui peuvent prêcher aussi, et qui le font. C'est la parole qui est dans la Bible, qui guérit et qui soutient, qui fortifie. Ok? Je n'y suis pour rien, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fondations... les fonctions d'ambassadeur au Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est quoi un ambassadeur? Ben en Chine, à Pékin, il y a 1 hectare ou 30 hectares de terrain avec des barrières, des barbelés et tout. Il y a des soldats français, des fonctionnaires, et des bureaux. C'est la France, en pays chinois. Et il peut y avoir un ambassade américain en Tanzanie. Vous voyez? Et il y a, moi j'ai vu en Israël, par exemple, dans Jérusalem, déjà avant qu'on en parle avec Trump, j'ai déjà vu, il y avait une ambassade américaine en plein dans Jérusalem, avec des fils de fer, des barbelés, enfin des caméras, mais ils étaient là. L'ONU avait une ambassade sur la colline d'Akitofel, le mauvais conseiller du roi. Et tous les juifs savent que c'est la colline du mauvais conseiller, l'ONU. J'ai parlé avec eux, ils savent très bien qu'ils vont avoir des coups avec l'ONU. Alors, l'ambassade, nous sommes ambassadeurs dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et nous faisons quoi? Nous faisons office de porte-parole. Pourquoi? Regardez bien. Comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Votre façon d'être, votre façon de vivre dans la grâce, apporte un regard. Chez les autres, ils voient, ils ont un regard. J'ai envie d'aller vers Dieu comme eux. Mais c'est sans prétention, sans orgueil. J'ai envie d'aller vers Dieu, j'ai envie d'être réconcilié. Et vous pouvez faire, même si vous êtes sourd-muet, paraplégique, vous pouvez apporter ce message d'ambassadeur. J'ai vu une fois, au début que j'étais évangélique, tout au début, j'ai vu dans une église un homme qui arrive, tout le monde était là, et on le tenait par la main, il était aveugle, puis on le mène au pupitre. Et il a fait une prédication, il était pasteur. Mais c'était incroyable, c'était magnifique. Il n'y a pas besoin des yeux humains pour voir Dieu, pour voir la parole. C'est ça. Moi, ça m'a frappé. Nous devons avoir des yeux autres que ça, charnel. Nous devons avoir dans notre cœur les yeux du cœur. Dans Éphésiens, Paul dit, au chapitre 1, dit que l'Esprit Saint veut illuminer les yeux de notre cœur. Alors, vous êtes accessible, vous êtes disponible. OK ? Donc, ici, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est beau. C'est un appel solennel à tous les hommes. Mes amis, il faut terminer. Je suis en une chose, parfois c'est dommage. Regardons le chapitre 6, verset 18. C'est quand même un véritable cadeau. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Bon, si vous avez eu des conflits avec votre père, que votre père c'était peut-être un tabasseur, un violeur, un brigand, ça pouvait être quelqu'un d'exécrable. Ne regardez pas ce père humain, biologique. Découvrez le père des cieux. Comment le trouver ? Dans Jean, au chapitre 1, verset 18, nul n'avait jamais vu Dieu. Mais Jésus, ici, issu du sein du Père, nous l'a révélé. Jésus, issu du sein du Père, nous l'a révélé. Nous voyons le Père à travers le Christ, à travers Jésus. S'attacher à Jésus, méditer sa parole, méditer sa personnalité, c'est découvrir la vraie relation de Père à Fils. Et là, on se construit. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, vous voyez, les femmes ne sont pas exclues. Hein? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Tout-Puissant. Pour faire de nous des fils et des filles. Alors, dans la deuxième aux Corinthiens encore, le chapitre 7, verset 1. C'est pour ça que je termine avec ce verset. Puis après, si vous voulez prier, chanter. On se quitte. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, imaginez ce que ça veut dire. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Donc, c'est sarx, hein. Il y a deux mots, chair, en français, il n'y en a qu'un. Soma, c'est les os et le bifteck. Hein. Mais sarx, c'est l'humain, c'est avec l'âme, l'esprit, la psychologie, plus le soma, quoi. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et pourquoi il dit l'esprit ? Parce que c'est le gouvernail, en principe, de mes émotions, de mes pensées, de mes projets. Mon esprit, Dieu est esprit, il a fait de moi un être spirituel. J'ai un esprit pour prendre des décisions. J'ai un esprit pour chercher et connaître Dieu. Et dans tous les événements de la vie, mon esprit doit être assaini par le Seigneur. Comment ? Comment ? Notre esprit, le gouvernail de notre vie, assaini en achevant notre sanctification dans la grâce de Dieu. Mes amis, nous avons un programme formidable, formidable. Merveilleux. Le Seigneur Jésus vous aime. Je vous en prie, laissez-vous. Et moi aussi. Laissons-nous habiter par l'Esprit de Dieu et devenir des vrais fils, des vrais filles. Oublions les mauvais souvenirs de nos pères et de nos mères charnelles. Parfois, c'est pas très brillant. Allons vers le vrai Père, celui que nous devons, que nous verrons face à face. Aimons cette rencontre. Préparons-nous. Jean a dit ceci dans sa première épître au chapitre 3. Nous deviendrons semblables à Jésus parce que nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et que celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Espérance, en français c'est un peu faible, c'est conviction, certitude. Voilà. Que Dieu vous bénisse.